la constelación.
Et oui, nous sommes bien là sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, bien là pour la Conspiration des planches, votre magazine critique des arts de la scène à Bruxelles. Bienvenue, montez dans les étages des théâtres, dans les gradins et asseyez-vous. Et nous, on va vous raconter un petit peu les spectacles qu'on a vus cette semaine à Bruxelles, dans diverses salles. On ira au Théâtre National, on vous parlera d'un spectacle qui revient au Centre culturel Duc, et on ira aussi également au Rideau de Bruxelles. Avec moi en studio, Elisabeth. Bonsoir, Elisabeth.
Bonjour, bonsoir.
Et on essaiera de joindre Isabelle pour voir, mais elle est dans les trains, c'est un petit peu compliqué. Mais on verra après la pause si elle pourra nous parler d'un spectacle fort attendu au National également. Mais on va commencer avec toi, Elisabeth, pour le nouveau spectacle de Céline Delbecq, autrice, metteuse en scène et comédienne aussi. Depuis son précédent spectacle, Les Yeux Noirs, on la trouve, on la voit sur scène jouer et c'est plutôt positif et plutôt réconfortant de la voir et de voir une bonne comédienne comme ça, en plus d'être une bonne autrice. Elle revient ici avec le spectacle Silence de Claire Lagrange.
Oui, alors... S'il fallait résumer ce spectacle qu'en un mot, je dirais claque. Alors pourquoi claque ? Ben tout simplement parce que la claque à la fin de la représentation, c'était la première hier au Rideau, était quand même plus que nourrie, très très longue, et c'était une claque de... Ok, on a eu ce... on a été nourris, il nous a rien manqué, c'était super.
Une bonne première,
voilà. Alors, pourquoi est-ce que ce serait aussi une autre claque ? Ben, c'est parce que c'est un spectacle où tout à fait en filigrane, on aborde des questions de santé mentale, mais elles sont placées dans un contexte beaucoup plus grand, et c'est vrai que c'est quand même une claque pour le système, quelque chose qui est dénoncé comme ça, je ne vais pas dire... pas à demi-mot, mais c'est entre les lignes et c'est pas faux. Mais c'est quand même une grosse claque, quand même une grosse question par rapport à notamment la médicalisation de ces personnes qui arrivent à un moment donné à avoir des décompensations psychiques et qui sont médicamentées parce que peut-être qu'il y a personne d'autre pour s'en occuper et que ça arrange bien que ces personnes dorment une partie de la journée. Enfin bon, c'est un peu des choses comme ça qui sont là-dedans. Et puis aussi, une claque, parce que c'est un spectacle qui fait théâtre de manière totalement différente. C'est un théâtre de Playmobil.
D'objets
de Playmobil, donc ils sont vraiment tout à fait petits.
Bon, et c'est comme ça que nous est amenée l'histoire, en fait. C'est-à-dire que tu nous as parlé en quelques mots là, d'un thème,
oui.
Mais ce qui ne nous apparaît pas comme ça en pleine place, quelque chose nous est raconté.
Oui, tout à fait. En fait, on voit, on a vu, tu l'as dit en intro, Céline Delbecq, elle a plusieurs casquettes. Et en fait, on la voit de dos. Il y a un bureau qui est là sur scène, on la voit de dos, elle est là, et on comprend très rapidement qu'elle est en train d'écrire, en fait. Elle est en train d'écrire, elle est en train de réfléchir à une pièce qui va exister, et la première phrase qu'elle dit, il faudrait que ce soit le personnage de Claire Lagrange qu'on voit d'abord, et sa lenteur. Mais on parle d'un Playmobil, donc voilà. Et puis... Après, on comprend qu'on va avoir un double dispositif. On a ce bureau qui est central, avec au-dessus un grand écran. Et puis, tout devant, on a une espèce de je manque un peu de vocabulaire technique, mais de toute petite caisse où on a ces Playmobil qui en fait font théâtre, qui sont la véritable scène en fait.
Comme un petit théâtre de marionnettes, on pourrait dire ça.
Un petit théâtre de marionnettes, si ce n'est qu'il n'y a pas de, rideau rouge, mmh. et il n'y a pas les artifices du théâtre. Mmh. Ben, une boîte, je dirais une table, mmh. mais petite, où on peut ranger, cacher ses marionnettes, etc. Et en fait, Céline Delbecq n'est pas seule en scène, elle est accompagnée de Isabelle Darras, qui elle manipule ses plaies mobiles. Et puis, il y a les projections qui nous permettent un peu de choisir notre angle, la manière dont, voilà, est-ce qu'on va vers le grand, est-ce qu'on va vers le petit, est-ce qu'on observe la marionnettiste, est-ce qu'on suit ce personnage de l'auteur qui est toujours de dos, et ça dure comme ça le temps de, entre guillemets, l'exposition, un peu, on situe un peu les principaux personnages. Et puis tout d'un coup, ce personnage de l'auteur va finalement se lever et un peu progressivement rompre le quatrième mur qui était très présent au début. Le quatrième mur, c'est un peu la ligne de séparation entre la scène et le public. Et donc elle va finalement nous regarder et continuer à faire de ce qu'elle a fait depuis le début. Et ce qui est très impressionnant aussi dans ce spectacle, et là aussi ça nous fout quand même une claque, c'est qu'elle interprète tous ces personnages en fait. Donc elle les écrit, elle les fantasme et elle les interprète. Alors dans les personnages, on est dans une salle, on va dire d'hôpital, quelque chose comme ça, enfin quelque chose d'un peu médicalisé. Il y a évidemment Claire Lagrange qui est là, mais avec sa lenteur, et on la découvre en train de peindre. Enfin, et puis il y a deux personnages en fait qui parlent d'elle et qui nous amènent plein de choses. Et Céline Delbecq change de voix pour chaque personnage, mais de manière très subtile et très délicate, et avec juste un peu la voix qui baisse comme ça, juste un changement de ton. Donc c'est voilà. Et ces personnages amènent en fait toute l'histoire, le contexte. Après, il y aura d'autres personnages, puisque il y aura le personnage de la mère de Claire Lagrange, donc qui est la personne qui est en train de peindre ou par la suite de dormir. Et puis il y a bien sûr un personnel soignant qui traverse le plateau, qui fait ce qu'elle peut et qui gère 120 000 choses à la fois. Et on la voit, et c'est là qu'il y a un peu cette claque, comment est-ce qu'on prend en charge en fait ces personnes-là, comment est-ce qu'on accepte de faire travailler des personnes dans des conditions pareilles. La claque, elle est là.
Elisabeth, je me permets une question. Je vois dans le résumé qu'on nous parle d'un établissement dans une forêt épaisse. Mm-hmm. Comment est matérialisée la forêt, ou est-elle juste imaginaire?
Non, la forêt est tout à fait matérialisée, puisqu'on a ce théâtre d'objets, comme tu le soulignais, et on voit très bien à travers les fenêtres de l'hôpital, on voit la forêt.
Alors, qui apporte une ambiance particulière au récit.
Qui apporte une ambiance, mais qui a aussi, je dirais, une fonction presque métaphorique, puisque il y a l'hôpital, la forêt, et puis très très loin derrière la ville, et entre les deux ça circule pas facilement. Mm-hmm. Il faut traverser la forêt. Symboliquement, la forêt c'est aussi son esprit et tout
embrumé
par médicamenté, on
va
plutôt dire. Et donc, il y a aussi un élément qui est évidemment symbolique, mais très fondamental, qui est la fissure. Et cette fissure, elle apparaît progressivement, on la voit comme ça. Donc c'est un spectacle où on voit tout, on doit constamment choisir son angle de vue. Et puis finalement, on est happé dans... Il y a un moment symbolique aussi où l'autrice tombe la veste et elle devient alors interprète. Et elle nous interprète un peu ce qui se passe dans la tête de la mère... qui essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment, machin. Et le texte, il y a une maîtrise absolue du texte, parce que ça devient véloce, en fait. Il y a les pensées comme ça qui s'agitent dans le crâne, et le texte s'accélère. Mais en même temps, on n'en perd, je ne vais pas dire pas un mot, mais presque pas une virgule, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un spectacle assez bluffant, qui a été un peu présenté aussi par quelque chose d'un peu poétique, parce que dans la note d'intention de Céline Delbecq, c'était aussi justement d'amener quelque chose, de rendre du positif, de la poétique là-dedans. Ce qu'elle fait avec un symbole, puisque il y a un moment donné, il est question d'une biche, et peut-être pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps de regarder la biche ? Donc, mais ça ne va pas plus loin que ça. C'est posé dans le texte à plusieurs endroits. Et donc, voilà, moi, je n'ai pas tellement ressenti ce côté poétique. Ce n'est pas éthéré non plus. Les choses sont à la fois concrètes, même si elles ne sont pas exprimées de manière... voilà, c'est un peu...
Elles sont
posées. C'est surtout la situation qui nous raconte en fait les choses. Et alors il y a ce magnifique équilibre entre le petit, le grand et toutes ces.
C'est ce qui nous fascine aussi souvent dans le théâtre d'objets, c'est qu'on peut bénéficier de voir la manipulation sur le plateau, mais aussi du recadrage par une caméra et de voir ce qui se passe en grand sur un écran et de pouvoir balayer du regard les deux, en fait. Hein, c'est
oui,
ça.
Oui. Passé. Et puis, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, parce qu'on a ces deux personnages qui dialoguent, mais ils ne dialoguent pas comme deux personnages dialoguent normalement au théâtre. C'est-à-dire qu'ils se parlent, mais à travers la même comédienne qui baisse juste d'un ton pour nous indiquer qui parle, etc. Donc, il y a vraiment plein de choses. Et c'est vrai qu'il faut souligner que là, si on fait un peu des recherches sur le spectacle et tout ça, il y a quand même 5 ans de travail. Céline Delbecq adopte plusieurs rôles, l'écriture, la mise en scène, etc. Elle a travaillé avec une doublure, elle a travaillé avec d'autres. Il y a des moments où les personnages ont été interprétés par d'autres. Donc il y a vraiment toute une décantation de ce texte. Et ça paye et ça se sent et voilà.
Le silence de Claire Lagrange, de Céline Delbecq, avec la participation sur scène aussi d'Isabelle Darras. Isabelle Darras qui est quand même une des spécialistes du théâtre d'objets chez nous. Elle est passée par le TOF. Elle a travaillé avec Agnès Limbos. Avec Julie Tanré, elle avait créé Night Shop Théâtre. Et on se souvient notamment de Silence déjà. Le silence était déjà là dans ce spectacle. Voilà, c'est à voir donc au Rideau de Bruxelles.
C'est un spectacle qui est appelé à tourner et à revenir sur Bruxelles. Hein, donc je pense que c'est en février ou en tout cas l'année prochaine, début de l'année prochaine, il sera de nouveau sur Bruxelles. En tout cas, grosse tournée pour ce spectacle.
En tout cas, sur cette première série, ce sera jusqu'au 28 novembre au Rideau. Le rideau.brussels pour toutes les informations. Parler du silence de Claire Lagrange. Mmh. Et moi, je vais vous demander de faire silence, comme nous l'enjoint le titre « Silence, ça tourne ». Un spectacle à découvrir au Théâtre National et créé par Christelle Coder et Nadim Deaibes. Christelle Coder qui a écrit et interprète et commet en scène ce spectacle. Elle s'est adjoint les talents de Nadim Deaibes qui est scénographe et qui signe cette commise en scène avec cette comédienne. C'est un spectacle dont on sort assez silencieux, je vais le dire, parce qu'on a été un petit peu abasourdi ou tétanisé par le propos et de la manière dont il nous a été emmené. C'est un spectacle qui va travailler sur des archives et des archives d'un épisode j'ai envie de dire, ou un des épisodes oubliés de la terrible guerre civile du Liban, puisqu'en 1976, le camp de Tel al-Zatar est complètement massacré et les habitants ou les réfugiés dans ce camp réfugiés palestiniens, on est pas loin de Beyrouth, au nord-est de Beyrouth en 1976, eh bien le monde assiste très tardivement à ce qui se passe à Tel al-Zatar et on doit bien dire qu'aujourd'hui, c'est un des nombreux épisodes malheureux de cette guerre. On pense bien évidemment à Sabra et Shatila, mais c'est une espèce de signe avant-coureur de ce qui allait se passer. Et dans la grande et trop longue histoire des conflits au Proche-Orient, c'est évidemment un épisode qu'on ne peut s'empêcher de mettre en rapport avec l'actualité et avec ce qui s'est passé aussi à Gaza. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Christelle Coder? Elle utilise très peu de moyens. D'abord sa présence et sur une table posée à l'avant et au centre du plateau, une radio. Et de cette radio va émerger, vont émerger des sons, évidemment, des témoignages, des extraits de reportages pour revenir sur cette histoire. Et de là, elle va extraire toutes les bandes magnétiques, les tirer littéralement, pour en composer un plateau remodelé, des frontières, un carré. Moi, j'y ai vu aussi personnellement une cible qui se faisait parce que ça se croisait. Et elle va le faire avec un ton d'une apparente neutralité glaçante.
Mais ça veut dire qu'elle est seule en scène.
Elle est seule en scène. Et alors, elle nous met en garde, en fait, en disant, elle nous dit, c'est quoi une archive? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais vous raconter? Et attention, moi, je ne suis pas la comédienne. Je vais peut-être, toutefois, utiliser des artifices théâtraux quand ce sera nécessaire, mais je ne jouerai aucun personnage. Et ne venez pas me parler après du spectacle, puisque je ne vous demande d'accueillir que ce qui sera dit ici. J'essaie d'être la plus neutre possible dans cet événement tragique, parce que, en fait, les faits suffisent d'eux-mêmes. Le prisme pris aussi pour raconter cette histoire, c'est l'histoire d'Eva Ståhl, une infirmière suédoise engagée à gauche et qui s'était engagée notamment dans le camp de Tal el-Zaatar. Elle s'y était mariée avec un logisticien palestinien et elle a été, c'est une survivante parce qu'elle a été blessée à vie, amputée d'un bras, blessée à la jambe et dans tout son corps finalement. Et en 2023, à Göteborg, Christelle Köder que recueille les mots bouleversants d'Eva Ståhl sur cette attaque. Mais il y a plein de documents qui vont nous être donnés à entendre pendant ce spectacle.
Et mais ce spectacle, parce que là, on raconte des faits qui se sont déroulés sur quelle période?
Sur quelques semaines, j'ai envie de dire. C'est vraiment sur ces... Alors évidemment, on revient un peu sur les antécédents, comment cette infirmière est arrivée sur place. Mais voilà, c'est... Comme je dis, les faits suffisent d'eux-mêmes pour nous raconter une horreur, la barbarie et tout ça. Mais l'apparente neutralité avec laquelle elle vient pour ce récit, j'irais presque... une froideur plus qu'une distance par rapport au récit, parce que elle veut nous faire comprendre que ce qui s'est passé vraiment, et elle n'est pas du tout distante des événements, si ce n'est qu'elle n'y a pas assisté directement. Mais en tout cas, elle vient nous faire prendre conscience de la manière horrible dont on peut rapidement, quand on n'est pas sur place, détourner les regards, comment on peut oublier ce genre de choses, et comment l'oubli peut nous amener à l'itération finalement de telles barbaries et de tels actes, puisque le camp se fera bombarder, les gens seront affamés, manqueront d'eau, de soins premiers, puisqu'on entendra aussi des acteurs de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, et c'est assez bouleversant. J'étais très... en fait, je suis ressorti là très décontenancé, parce que je me suis dit, comment alourdir un sujet déjà lourd? Mais en fait, elle ne l'alourdit pas. C'est le sujet.
Oui, c'est ça. Il ne faut pas lui mettre des fioritures ou se prendre des masques ou des choses comme ça.
Et aussi le découvrir par le son, parce qu'aucune image n'est présentée aussi.
Oui, mais c'est la vérité toute nue.
Voilà. Ça s'appelle donc Silence, ça tourne et c'est à découvrir jusqu'à ce 22 novembre au Théâtre National. On va faire une petite pause musicale et on retournera au Théâtre National dans quelques instants, du moins pour annoncer le spectacle si on n'arrive pas à joindre Isabelle, mais rendez-vous dans quelques minutes.
Vivir entre los dos, primero amar el mundo y luego amar a Dios. Quien pudiera vivir entre los dos, primero amar el mundo quien pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra. Que entre la tierra y el cielo nunca viera suelo. En el primero, sexo, violencia y llantas, deportes de sangre, monedas en gargantas. En el segundo, destellos, palomas y santas, la gracia y el fruto y el peso de la balanza. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar.
Sexo, violencia y llantas, c'est un extrait du nouvel album de Rosalía, c'est même le morceau qui ouvre cet album. Grandiloquent, on a donné tous les adjectifs à cet album, mais quelle beauté aussi de retrouver ce flamenco aussi retravaillé. L'album s'appelle Lux et évidemment était précédé du morceau Bergain, mais ici je voulais vous faire entendre ce morceau Sexo Violencia Illiantas. On est de retour sur Radio Campus dans la conspiration des planches. Alors, l'Espagne et le flamenco de Rosalía me fait faire automatiquement le lien vers le spectacle qui arrive la semaine prochaine au Théâtre National, celui d'Israël Galvan et Mohamed El Khatib. Israël Galvan, et le spectacle s'appelle Israël et Mohamed, tout simplement. Et le duo se forme sur scène avec ce qu'ils savent faire. Lui est dramaturge et documentariste, c'est Mohamed. L'autre est l'un des plus grands danseurs de flamenco de notre époque. Que vont-ils faire sur scène? Un duo assez dingue. Ils ont tous les deux rêvé d'être footballeurs. Est-ce que ce sera le sujet? Moi, je n'ai pas vu ce spectacle. Isabelle l'a vu, mais malheureusement, elle ne pourra pas nous en parler aujourd'hui. Mais sachez que c'est un spectacle qui arrive avec toute cette culture et aussi cette volonté de dialoguer par-delà la Méditerranée, j'ai envie de dire, entre Mohamed El Khatib et Israël Galvan. C'est à voir donc du 26 au 30 novembre au Théâtre National. Je vous le dis, c'est complet, mais les listes d'attente, ça existe également. On peut toujours espérer. C'est rendez-vous donc www.theatrenational.be pour toutes les informations. Et pour terminer cette émission, Elisabeth, une petite annonce, une petite reprise, c'est celle de Queen Kong, spectacle de Georges Ligny.
Sa trilogie des Antigones.
Voilà, et c'était un épisode alors présenté souvent comme un spectacle plus dédié aux adolescents, en tout cas qui met en scène une adolescente ou en tout cas une très jeune adulte qui va s'engager de manière assez frontale dans les ZAD, c'est les zones à défendre, pour l'environnement, pour la justice sociale, etc., de manière assez radicale. Et au même moment, c'est aussi la découverte d'un corps, la découverte de la sexualité et aussi d'une sexualité pleinement assumée. Voilà.
Mais en fait, moi, j'ai vu ce spectacle en étant plus qu'adulte, et en fait, ce qui m'en reste, c'est vraiment la fantastique énergie qui se trouve à la fois dans le texte, qui est un texte radical, qui
d'Hélène Vignal. Hélène Vignal est une autrice qui romancière,
qui est même, un peu spécialisée jeunesse, etc. Mais qui livre un texte qui est un coup de poing, un coup de poing dans la gueule, en fait, et une comédienne qui est Emily Ecout, qui y met une énergie de fou et qui nous transmet ses tripes, en fait. Et donc, le contenu, finalement, il s'est un peu effacé dans ma mémoire. Ce qui est très présent aussi, c'est quand même cette scénographie très radicale aussi et totalement efficace que nous avait proposé Georges Ligny. Et donc...
Georges Ligny adore mettre ses comédiens un petit peu en déséquilibre, pour leur donner... on l'a vu avec des plans inclinés, des attractions de skateboard, ou en tout cas des infrastructures structure assez rocambolesque. Le plan incliné ici est de retour.
Oui, voilà, mais ça fonctionnait terriblement bien parce que ça collait à l'espèce d'urgence comme ça qui traversait dans l'interprétation. Et c'est un texte qui parle beaucoup de harcèlement. Alors, s'il revient là pour une date au centre culturel d'où le Ducle, le 26 novembre, c'est parce qu'en fait, c'est une soirée qui est totalement dédié et les bénéfices sont totalement dédiés à Lilo qui lutte contre le sans-abrisme et qui a beaucoup d'écho dans ce texte entre ce que ces gens qui s'occupent du sans-abrisme à Bruxelles, vraiment chez nous, rencontrent tous les jours, qui est un peu la situation de ces femmes qui sont privées de toit, qui sont exposées à beaucoup de choses. Et donc il y a une rencontre comme ça qui se fait théorique et on sait le sort qui attend nos associations vu le contexte politique à Bruxelles. Et donc il est peut-être important, si vous n'avez pas vu ce spectacle qui était quand même un des grands spectacles qu'on a pu voir récemment, c'est peut-être une occasion, il doit peut-être rester encore quelques places. Alors,
c'est pourquoi, comme on dit, spectacle de soutien, quand vous allez réserver vos places sur le site du Centre culturel Duc, ccu.be, deux prix vous sont proposés. Place et le prix de soutien plus élevé, qui fait office de don également.
Oui, c'est ça, on n'a pas les réductions qu'on peut éventuellement avoir au Centre culturel Duc, qui pratique quand même des réductions d'habitude. Mais voilà, c'est l'occasion à la fois de prendre cette problématique, de peut-être croiser des gens qui en sont impliqués et en tout cas de contribuer quelque part à cette lutte qui est quand même essentielle à cette saison et aux autres aussi.
Rendez-vous donc le 26 novembre au Centre culturel Duc pour Queen Kong, texte d'Hélène Vignal, mise en scène de Georges Ligny et interprétation d'Emily Ecout. www.ccu.be pour toutes les informations. Merci Elisabeth.
Avec grand plaisir.
On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine.
Mais oui, puis c'est quand même un temps où il faut aller au théâtre.
Mais oui, réfugiez-vous dans
les
théâtres.
Oui, voilà. Allez.
Voilà. Bonne planche à tous et à la semaine prochaine.
À bientôt. Merci Nico. La Constellation. La constelación.